Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Maria, donc pour cette 10e émission sur Padre Pio. Aujourd'hui, je vais commencer par parler de Padre Pio et Saint-Joseph, parce qu'on est dans l'année Saint-Joseph jusqu'au 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Alors, Padre Pio avait une grande dévotion pour Saint-Joseph. Hein. Saint-Joseph est considéré par beaucoup comme le plus grand saint du paradis, après Marie, et certains ont dit qu'il était le saint le plus aimé par Padre Pio. Et c'est vrai que dans beaucoup de ses lettres à ses directeurs spirituels, Padre Pio mettait les lettres GM, GFDC quelquefois. Donc c'est Jésus, Marie, Joseph, et quelquefois François, et quelquefois plus rarement DC, Dominique et Claire. Donc une grande dévotion pour Saint-Joseph. Padre Pio a été favorisé de grâces mystiques, a-t-il écrit, un peu avant l'âge de 5 ans, avec des apparitions de Jésus, Marie, Joseph, son ange gardien, qu'il appelait mon angeline ou mon petit ange, voilà, et quelquefois Saint François. Padre Pio avait une dévotion discrète pour Saint-Joseph, mais une dévotion intense et très ardente. C'est une dévotion qui lui avait été inculquée tout petit par sa maman, qui d'ailleurs s'appelait Marie-Joséphine, Marie-Joséphine d'Inuncio. Alors, plusieurs confrères de Padre Pio ont dit que Padre Pio avait cette grande dévotion et aimait se recueillir devant un tableau de Saint-Joseph. Quelques phrases de Padre Pio écrites au verso de petites images, avec des images de Saint-Joseph qu'il donnait à ses fils, aux filles spirituelles ou à des visiteurs. J'en cite quelques-unes que j'ai relevées comme ceci. « Que Saint-Joseph soit pour toi, en mon absence, un père. Que Saint-Joseph te rende toujours plus cher à l'enfant Jésus. Que Saint-Joseph te fasse expérimenter les effets de sa protection. Que Saint-Joseph t'aide à aimer Jésus plus que tout. Ou encore, que Saint-Joseph ait compassion de toi et te serve de père. » D'ailleurs, il y a une neuvaine qui est très connue, la neuvaine de Padre Pio, qu'on dit la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus. Et juste à la fin, juste avant le Salve Regina, il est écrit « Saint-Joseph, père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. » Padre Pio invitait beaucoup de ses fils et filles spirituelles à prier Saint-Joseph. Il les invitait à avoir envers lui, Saint-Joseph, une sincère profonde dévotion, riche d'enseignements, de réconfort et de grâce. Il a dit à un de ses confrères, je crois que c'était Padre Honorato, « allez à Joseph, avec une confiance extrême, parce que moi aussi, comme Sainte Thérèse d'Avila, dit-il, je ne me souviens pas d'avoir demandé quelque chose à Saint-Joseph sans qu'il ne me l'ait obtenu. » Il écrivit à quelqu'un, « Je prie Saint-Joseph pour qu'avec l'amour et la générosité avec laquelle il protégea Jésus, il protège ton âme, comme il le défendit d'Hérode, d'un Hérode encore plus féroce, le démon. Que le patriarche Saint-Joseph ait pour toi toute l'attention qu'il eut pour Jésus, qu'il t'assiste toujours avec son valeureux nom, et qu'il te libère de la persécution de l'impie et superbe Hérode, et qu'il ne permette jamais que Jésus s'éloigne de ton cœur. » Il écrit aussi à son directeur spirituel, Padre Agostino, en 1912. « Barbe bleue, c'est comme ça qu'il appelait Satan, hein. Barbe bleue ne veut pas s'avouer vaincu. Il a pris presque toutes les formes. Depuis plusieurs jours, il vient me visiter avec d'autres de ses sbires, armés de bâtons et d'engins en fer, et ce qui est pire que tout, sous sa propre forme. Dieu seul sait combien de fois il m'a jeté au bas du lit en me tirant dans la chambre. Mais patience, Jésus, la petite maman, mon ange gardien, Saint-Joseph et Saint-François sont toujours avec moi. » Il écrit aussi en 1912, à son directeur spirituel, hier, fête de Saint-Joseph, Dieu seul sait combien de douceur j'ai éprouvé spécialement après la messe, que je les ressens encore en moi, la tête et le cœur me brûlaient, mais c'était un feu qui me faisait du bien. Et dans la même lettre, je le cite, parce que ce n'est pas en lien avec Saint-Joseph, mais ça montre bien qu'il était Padre Pio. Ce qui m'afflige le plus est que tant d'amour de Jésus n'a en retour de ma part que tant d'ingratitude. On voit l'humilité de Padre Pio. Il rajoute, « Je voudrais, si c'est en mon pouvoir, laver avec mon sang ces lieux où j'ai commis tant de péchés, où j'ai scandalisé tant d'âmes. » Et il rajoute, « Du jeudi soir jusqu'au samedi, comme aussi le mardi, c'est pour moi une tragédie douloureuse. Le cœur, les mains et les pieds me semblent être transpercés par une épée, tant est grande la douleur que je ressens. » Alors, Saint-Joseph est le protecteur des jeunes. Hein. Padre Pio a plusieurs fois confié les jeunes à la protection de Saint-Joseph, comme Saint-Joseph a protégé Jésus. Hein. Il leur disait, Saint-Joseph, protecteur de Jésus, est le premier protecteur de l'enfance. Et je signale qu'en Italie, Padre Pio est le saint patron des adolescents catholiques. À San Giovanni Rotondo, il y a une église qui a été construite à l'époque de Padre Pio. La première pierre a été posée le 1er mai 1958 en présence de Padre Pio. C'est l'église de Saint-Joseph Artisan de San Giovanni Rotondo. Et c'est le pape Pie XII qui instaura en 1955, le 1er mai, à la fête de Saint-Joseph Artisan. Et le mois passé, on a écouté Padre Guglielmo, ce fils spirituel de Padre Pio, très proche de Padre Pio, qui est un poète. J'ai une quinzaine de livres de poésie écrites par Padre Guglielmo. Et j'en ai traduit une sur Saint-Joseph. Voilà ce qu'écrit Padre Guglielmo. « Ô cher Saint-Joseph, à ton nom nous lie l'amour le plus fervent. À toi, le Tout-Puissant concède ce que tu lui demandes. Plein d'attention, tu protégeas ton cher Jésus. Tu fus son protecteur. Par la main, tu le guidas comme un père prévenant. Tu lui donnas tes baisers. Tu lui prodigas tes caresses. Tu lui consacras tout. L'esprit, le cœur, les forces. Il fut le roi de ta vie. Tu gravas dans ton cœur le charme de son visage, la lumière de ses yeux, le son de sa voix et son moindre geste. Ô Saint protecteur, obtiens à nous tous miséricorde et paix, que Jésus nous sert à lui maintenant et toujours. » Voilà, c'est le Padre Guglielmo. Ben, on va écouter un chant justement du chœur de Pescara. Du sanctuaire de Notre-Dame des Sept Douleurs où se trouve Padre Guglielmo.
Marie, notre cœur demande Mère, regarde-nous. l'arc-en-ciel brillait dans le ciel. Demande à Dieu le don de la paix, ô Marie, pour tous tes enfants, pour ceux qui t'embauchent. Pour ceux qui en toi espèrent, pour ceux qui t'ignorent, Marie, nous te prions. Ô Mère, regarde-nous, ô Mère, écoute-nous, ô Mère, aide-nous, ô Mère, nous t'aimons.
Je vais dire un mot sur un autre saint qu'aimait beaucoup Padre Pio, c'est Saint-Michel Archange. D'abord parce que le mont Gargano, le Monte Sant'Angelo, se trouve à une vingtaine de kilomètres de San Giovanni Rotondo. Padre Pio est monté une fois au mont Gargano. C'était le 3 septembre 1917 où il avait accompagné les jeunes futurs séminaristes pour certains d'entre eux, là-haut. À beaucoup de pénitents, Padre Pio disait « Allez saluer Saint-Michel ». Et après leur avoir donné l'absolution, il leur conseillait d'aller se recueillir dans la grotte de Saint-Michel du Mont Gargano. Il a écrit, à un de ses confrères, c'était à Padre Mariano Palladino, s'il n'y avait pas eu Saint-Michel, à cette heure, tu aurais vu Padre Pio sous les pieds de Lucifer. Il a écrit aussi que Saint-Michel te protège et te défende de l'ennemi infernal. Alors, Saint-Michel, c'est le protecteur de la France, et la Vierge, c'est la patronne principale de la France. Donc, Saint-Michel et la Vierge, c'est très très important pour la France et surtout encore plus l'année prochaine parce que ça fera 100 ans que le pape Pie XI, il avait fait ça en 1922, avait donné la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption comme patronne principale de la France. Et on remarquera aussi qu'au sanctuaire de Lourdes, les deux portes d'accès, une porte le nom de Saint-Michel et l'autre de Saint-Joseph, dont on a parlé tout à l'heure. Lors de la deuxième émission que nous avons eue, j'avais lu une rédaction de Padre Pio. Alors j'en ai traduit une autre, c'est une rédaction qu'avait fait Padre Pio en 1902. Il a 15 ans, donc c'est un jeune garçon. Et le sujet de cette rédaction, demandé par son instituteur, était « Si j'étais roi ». Et voilà ce qu'écrit ce jeune garçon, Padre Pio, qui a 15 ans, « Si j'étais roi ». « Oh, si j'étais roi, combien de belles choses je voudrais réaliser. Plus que tout autre, je voudrais être un roi religieux, comme je suis maintenant, et comme j'espère l'être toujours. Je combattrai avant tout le divorce, désiré par beaucoup de gens, et je ferai en sorte que les sacrements du mariage soient majoritairement respectés. Je chercherai même à illustrer mon nom en poursuivant toujours la voie du vrai chrétien. Ensuite, gare à ceux qui ne la suivraient pas. Je les punirai tout de suite en les mettant en prison ou par l'exil. J'aurai en tête l'exemple d'Alexandre Sévère. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Durant mon règne, je ne cesserai pas de visiter les provinces pour en améliorer l'administration et pour laisser partout en mémoire des monuments comme des portes, des rues, des cirques, des bibliothèques, des statues, des théâtres, etc. Je me montrerai affable, humain, respectueux des lois. Je voyagerai comme simple citoyen. Je donnerai des audiences à tous. Je serai habillé très simplement, avec des vêtements faits par les femmes à la maison. Il est écologiste, Padre Pio. Hein. J'accueillerai à ma cour les plus grands écrivains, j'octroierai de bons salaires aux maîtres de rhétorique, je favoriserai les arts, et ma maxime principale serait celle de Vespasien, seul un ami de l'humanité est digne de commander. On va écouter encore une chanson du chœur de Pescara, puis ensuite on va essayer de répondre à quelques questions particulières autour de Padre Pio.
Le tout-puissant Esprit de Dieu plane doucement dans la création. Les nuages comme la jule vapeur poussent sous l'impulsion de l'amour et il donne les palpitations de la vie. Quand l'homme vit respirant de cet amour épique que tu lui donnes, Seigneur, il te rassemble en merveille. Ainsi, Padre Pio te disait, sur ta rayon ciel, je voudrais toujours mieux. Il rassemble tout le fleuve dans la mer. De la mer, il laisse libre les berges. Il a donné aux poissons la nourriture, aux petits oiseaux tout l'espace qu'il veut. Il ne garda même pas pour lui le soleil. Quand l'homme vit respirant de cet amour épique que tu lui donnes, Seigneur, il te rassemble en merveille. Ainsi, Padre Pio, tu disais, sur ta rayon ciel, je voudrais toujours plus.
Voilà Gino Testa pour ce deuxième chant. Et donc cette première question que je souhaite vous poser, Gino Testa, on entend parler de fils spirituel de Padre Pio. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et peut-on aujourd'hui être fils spirituel de Padre Pio?
Oui, alors voilà ce que sont les fils spirituels de Padre Pio. Alors je parle de fils spirituels de Padre Pio, pas d'autres appellations protégées de Padre Pio ou autres. Hein. Alors je tire ce que je vais vous dire, c'est la définition qui est tirée du règlement des groupes de prière de Padre Pio, qui ont été voulus et créés par Padre Pio et qui font partie avec l'hôpital de Casa Solier Voda Soferenza, l'hôpital de la maison du soulagement de la souffrance, qui font partie de ce que l'on appelle l'œuvre de Padre Pio, l'opéra di Padre Pio, à laquelle Padre Pio a dit tenir plus qu'à la prunelle de ses yeux. Alors, le règlement de ces groupes de prières a été approuvé par le Saint-Siège dans une lettre numéro 198-909 du 7 février 2012. Voilà ce qu'on lit à l'article 3. Sont appelés fils spirituels de Padre Pio. Petit a, tous ceux qui furent accueillis et acceptés directement par Padre Pio. Donc les gens qui allaient à San Giovanni Rotondo régulièrement demandaient à Padre Pio d'être accueillis comme fils spirituels. Et Padre Pio, quelquefois, leur disait oui. Et leur faisait cette remarque, « Garçon, ne me fais pas faire une mauvaise figure. » C'est important cette phrase, hein. « Garçon, ne me fais pas faire une mauvaise figure. » Donc être fils spirituel de Padre Pio, c'était aussi un engagement. Et je connais beaucoup de gens âgés maintenant, hommes ou femmes, qui sont fils ou filles spirituelles de Padre Pio, qui ont dit en avoir retiré beaucoup de protection, Padre Pio. Et on a vu le mois passé comme Padre Guglielmo aime Padre Pio, cette proximité, comme il en parlait. Moi, j'étais ému d'entendre ce qu'il disait. Il n'a pas fait de grandes envolées le mois passé, Padre Guglielmo, mais il a surtout parlé de l'amitié qu'il ressentait auprès de Padre Pio. Deuxièmement, sont appelés fils spirituels de Padre Pio ceux qui travaillent à son œuvre, donc l'hôpital de la Casa Soleil de la Sofferenza, et suivent sa spiritualité en réalisant dans leur vie les béatitudes évangéliques dans un chemin de sainteté. Et troisièmement, les membres des groupes de prière de Padre Pio, comme cela était traditionnellement fait à l'époque où Padre Pio était encore vivant. Lorsque Padre Guglielmo était venu à Paris, il y a 4 ou 5 ans, là, je me souviens qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, il avait dit que Padre Pio appelait ses fils et filles spirituelles de ses groupes les fleurs du jardin de Dieu. On a dit que Padre Pio a dit aussi « Je resterai à la porte du paradis jusqu'à ce que le dernier de mes fils spirituels ne reste pas à la porte et rentre. » Alors, il y a quelques fils spirituels de Padre Pio qui ont été amenés sur les autels. Hein. Je pense à la bienheureuse Maria Gariani, qui a été béatifiée il y a 2 ans maintenant, dont j'ai parlé aussi. Giacomo Gaglione, qui était sur une chaise roulante, qui est vénérable. Il y a la vénérable Gemma Giannini, le servant de Dieu, Fra Daniele Natale, dont la tombe est à San Giovanni Rotondo. Un couple de servants de Dieu, Settimo Manelli et son épouse Angela Iacobidis, qui sont les parents du fondateur des Franciscains de l'Immaculée, hein, Stefano Maria Manelli, la servante de Dieu Eleonore Foresti et d'autres. Hein, voilà beaucoup. Il y a quelque chose qui me touche, c'était en 2012, pour les 10 ans de la canonisation de Padre Pio, il y avait le secrétaire d'État du Saint-Siège qui était venu à San Giovanni Rotondo, à l'époque c'était le cardinal Bertone, et 2 jours après, dans l'Osservatore Romano, il y avait ce titre guide Padre Pio, guide spirituel du laïca. Voilà, je pense que Padre Pio parle beaucoup à beaucoup, beaucoup de gens. Dans les groupes de prière ou ailleurs, il y a une grande, grande dévotion à Padre Pio. Les gens aiment Padre Pio pour des raisons diverses, hein, parce qu'il a obéi, parce qu'il a souffert, parce qu'ils ont reçu une grâce, parce qu'ils ressentent quelque chose. Padre Pio touche beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Et quelque chose d'important dans les groupes de prière, hein, les groupes de prière de Padre Pio, une chose fondamentale, c'est l'obéissance à l'Église. Tous les groupes de prière sont faits avec l'approbation de l'évêque du lieu, c'est fondamental, et il y a un accompagnateur spirituel, un directeur spirituel, c'est l'assurance de l'obéissance à la doctrine de l'Église. Voilà, très rapidement. Et une chose importante, par rapport à ceci, je trouve que c'est important. Quand Saint Pie X est mort en 1914, donc dans les jours qui ont suivi, Padre Pio avait écrit à son directeur spirituel que Pie X, qui n'était pas saint, donc c'était le pape décédé, était une âme sainte et noble comme il n'y avait jamais eu l'équivalent à Rome, et c'était le doux Christ sur la terre. Et il y a quelque chose qui me touche chez Pie X, c'est lorsqu'il était jeune séminariste à Trévise. Apparemment, il y avait un problème entre les séminaristes et puis un professeur. Donc, je ne sais plus, c'était le sous-directeur du séminaire avait demandé à Giuseppe Sarto, donc à ce jeune séminariste qui ne viendra pas, la raison de ce problème. Et Giuseppe Sarto avait répondu, avait vu 2 causes. La première, c'est que les séminaristes ne sentaient pas que ce professeur les aimait. Donc, l'amitié entre les gens, entre les chrétiens, avec les gens qui nous entourent, est vraiment quelque chose de fondamental. Et la deuxième chose qu'il a m'indiqué, c'est que ce professeur ne participait n'appelle pas à faire l'union entre dans le groupe, mais plutôt la désunion. Donc voilà, l'union et puis l'amitié entre les gens, c'est quelque chose de fondamental. Voilà.
Oui, très important, effectivement, Gino. Une autre question, Gino Testa, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les confessions avec Padre Pio et puis aussi les messes de Padre Pio?
Oui, alors les messes. La messe, c'est le summum de la vie chrétienne. Padre Pio avait dit que le monde pourrait rester même sans soleil, mais il ne pourrait pas rester sans l'Eucharistie. À une époque, surtout dans la période où il était à Pietralcina, donc dans les années 1912-1917, où il célébrait des messes qui duraient 4-5 heures. Et il a refait ça lorsqu'il ne pouvait plus célébrer en public à San Giovanni Rotondo. Et ensuite, à la fin de sa vie, on l'avait obligé de faire des messes, de limiter ça à 30 minutes. Mais elles attiraient beaucoup de monde et à des horaires différents, mais les gens se précipitaient pour assister aux messes de Padre Pio. C'est Paul VI qui avait dit « Une messe de Padre Pio vaut une mission ». Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont convertis simplement après avoir assisté à une messe de Padre Pio. J'ai une tante qui s'appelle Valère, qui a 99 ans, qui est fille spirituelle de Padre Pio, et un jour elle était à San Giovanni Rotondo. Elle était sur la place devant le couvent en discutant avec d'autres femmes. Et il y avait un monsieur qui est venu tenir des propos pas très gentils à sa femme en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est buanderie, on rentre, on part. » Et ça n'y a pas assez d'autres. Et ensuite, au moment de la messe, ma tante était dans l'église, donc près d'un pilier, hein, sur la droite dans cette église. Padre Pio célébrait vers le petit hôtel Saint-François, et ce monsieur était à côté d'elle, le bras appuyé au pilier, et subitement, ma tante sent une bouffée de parfum. Elle était à genoux, et elle se dit, mais c'est pas possible qu'il ne sente pas ça, donc elle lève les yeux, elle voit toujours cet homme debout avec la main appuyée au pilier, elle rebaisse la tête, et elle sent encore une bouffée de parfum, elle relève les yeux et elle voit des larmes couler sur la joue de ce monsieur et ce monsieur tombe à genoux. Voilà, c'est des conversions qui sont arrivées comme ceci, simplement avec des messes de Padre Pio. Et moi, ça me touche, c'est que Padre Pio, lorsqu'il était à Pietralcina, où il avait des problèmes de vue, il écrit à ses lecteurs spirituels « Je ne peux pas écrire plus parce que je n'en peux plus, je vois mal. » Donc il avait une dérogation des autorités ecclésiastiques pour ne plus célébrer la messe du jour, mais pour remplacer celle-ci par la messe à l'Immaculée, pendant la semaine donc, et toujours cette même messe à l'Immaculée, et de remplacer le bréviaire par la prière du chapelet. Et je trouve que c'est beau cette proximité de Padre Pio avec la Vierge. À la fin de sa vie, Padre Pio a célébré les messes en latin jusqu'à la fin. Alors certains ont dit que c'était parce qu'il était contre le concile, non, c'est pas ça du tout. C'est que Padre Pio était âgé et comme beaucoup de prêtres âgés à l'époque, ben on les a laissés et on avait le choix. Hein. Ils ont continué à célébrer comme ils avaient l'habitude. Padre Pio était obéissant à ses supérieurs et à l'Église. Et je me souviens ce qu'avait dit Padre Guglielmo, alors je ne sais plus à quel endroit, mais il parlait il a vu Padre Pio trembler avant d'aller célébrer la messe. Et parce que Padre Pio se préparait longtemps à l'avance, hein, des heures à l'avance pour aller célébrer. Et Padre Pio lui a dit, je ne tremble, non pas pour ce que je dois souffrir, mais pour ce que je dois offrir. Voilà. Et Padre Pio perdait beaucoup de sang pendant ses messes. C'est pour ça qu'il avait des manches rouges sur son aube. Maintenant, les confessions. Il faut remarquer que Padre Pio n'a pas pu confesser tout de suite. Hein. Comme il était à Pietralcina à cause de ses maladies, il n'a pas suivi un parcours classique de formation. Donc, on avait mis en doute ses talents, ses compétences de confesseur. Et ensuite, il deviendra ce grand confesseur. Hein. le pape Benoît XVI avait placé l'année sacerdotale sous sa protection en mettant le curé d'Ars comme exemple pour les prêtres, et on pense au jubilé de la miséricorde où le pape François avait confié des missionnaires de la miséricorde à Padre Pio ou à Saint-Léopold. Padre Pio a confessé 12 à 14 heures par jour, hein, qu'il fallait réserver des jours à l'avance pour pouvoir passer. Il y avait des files d'hommes, des files d'âmes. Padre Pio recommandait une confession fréquente en disant c'est comme la poussière, il faut l'enlever. Il avait quelquefois le don de lire dans les consciences, d'énumérer des péchés. Des gens l'ont dit, mais c'était pas toujours. Hein. Valéria, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'est confessée quelques fois par Padre Pio, mais c'était une confession comme celle qu'elle a avec les prêtres de son village. Padre Pio, on dit qu'il était bourru, il chassait les gens lorsqu'il sentait qu'il n'y avait pas une volonté sincère de changer. Padre Pio avait ce don de sentir lorsque les gens mentaient, ou lorsque Dieu avait une vue sur une personne. C'est une souffrance de confesser 12-14 heures par jour. À la fin de sa vie, il avait le sang qui circulait mal, donc il faisait froid dans le confessionnal. Il avait une brique sous les pieds pour avoir un peu de chaleur. Il tenait la porte ouverte, on voit des photos du confessionnal parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'air. Il demande à une personne qui va se confesser « Combien de fois tu manquais la messe dominicale ?» Et le monsieur répond « Une vingtaine de fois. » Et Padre Pio lui « Après 20, il y a 21, 20 ans. » Et ça me touche beaucoup. Moi, j'ai vécu quelque chose comme ceci une fois où j'avais dit un nombre, une trentaine, et on m'a dit « Ici, on fait une confession générale. » Et puis des fois, quand les gens ne voulaient pas partir comme ceci, Padre Pio leur disait « Si je ne t'en vas pas, c'est moi qui pars. » Voilà.
Et alors, Gino Testa, autre question. Il semblerait qu'il y ait eu un message à Medjugorje dans lequel il a été question d'offrande de roses. Est-ce que cela vous parle?
Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, bon... Vous savez que l'hommage floral de Lourdes a été initié par les groupes de prière de Padre Pio, reprenant la demande qu'avait fait Padre Pio en 1965 de demander à une de ses filles spirituelles qui habitait Rome d'apporter en son nom un bouquet de fleurs au pied de la statue de l'Immaculée qui passe d'Espagne. Donc on a repris cette demande à Padre Pio pour initier cet hommage floral à Lourdes, qui est parti de manière très, très confidentielle. On était 4 ou 5 la première fois, après 30. Et ensuite, en parlant avec le recteur de l'époque, le père Cab, je lui dis, il ne faut pas que ce soit les groupes de Padre Pio, il faut élargir à toutes les sensibilités et le faire par Internet. Et là, le recteur, le père Cab, a fait ça au-delà de ce que j'imaginais, parce que c'était mis sur le sanctuaire, et le 8 décembre, 2017, il y a eu 8000 roses dans la grotte, des roses jaunes, parce que la Vierge est apparue avec une rose jaune sur chaque pied, et couleur de la chaîne de son chapelet, donc 8000 roses le 8 décembre, et voilà, alors le hasard fait bien les choses, voilà le message de Medjugorje du 2 décembre 2017 à Myriana. Alors je lis, on le retrouve sur Internet, mais « Offrez-moi le rosaire, ces roses que j'aime tant. Mes roses sont vos prières. Dites avec le cœur et non seulement des lèvres. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. Mon fils, quand il était petit, me disait que mes enfants seraient nombreux et qu'il m'apporterait beaucoup de roses. Je ne le comprenais pas. Maintenant, je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils par-dessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres, ce sont mes roses. » Voilà, je trouve que le hasard fait bien les choses.
Effectivement, oui, avec ce beau lien de la Vierge Marie à travers ses sanctuaires.
Oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Je vais résumer un petit peu très rapidement la spiritualité de Padre Pio, hein. Donc il a été reconnu par des papes et des gens qui sont devenus bienheureux ou saints, parce que ceux qui ont défendu Padre Pio de son vivant lorsqu'il est attaqué, c'était le bienheureux Monseigneur Longhin, l'évêque de Trévise. Il y a donc Luigi Orione qui est saint, qui a défendu Padre Pio. Et puis Beaucoup de papes ont compris, hein, Benoît XV qui a dit que Padre Pio était un de ces hommes que Dieu envoyait de temps en temps sur la terre pour convertir les hommes. Pie XII qui était dévoué à Padre Pio, Paul VI, Jean-Paul II, on le sait qu'il a béatifié, canonisé. Benoît XVI qui a écrit, à mon avis, une des plus belles choses sur Padre Pio. Il peut nous faire redécouvrir la joie et le bonheur d'être chrétien, de pratiquer l'évangile. Voilà. Une chose importante chez Padre Pio, c'est l'abandon à la divine providence. Voir dans ce qui nous arrive la main de Dieu et l'accepter. J'aime bien cette histoire. Padre Pio, je crois qu'il parlait avec Padre Pellegrino, et comme tout le monde, Padre Pellegrino lui fait quelques remarques, et Padre Pio dit « Si j'étais Dieu, je ferais ». Et là, il se rend compte qu'il blasphème presque. Et Padre Pio dit « Si j'étais Dieu, je ferais exactement ce qu'il fait ». L'obéissance chez Padre Pio est fondamentale. L'obéissance à l'Église, à ses supérieurs, l'obéissance au pape, c'est fondamental. L'humilité, c'est vraiment la base de tout pour Padre Pio. J'aime beaucoup ce petit exemple. Padre Pio dit qu'une maison est solide lorsque les fondations sont solides et le toit est solide. Donc les fondations, dit Padre Pio, c'est l'humilité et le toit, c'est la charité. La dévotion immense à la Madone, hein, le plus grand signe d'amour que vous pourrez me donner sera de savoir que vous aussi vous remerciez pour moi la Vierge Marie. Padre Pio, et la prière, il priait le chapelet. Il avait toujours le chapelet à la main, Padre Pio. Donc c'est quelque chose qui est important. L'humanité de Padre Pio. Padre Pio aime les gens. Padre Pio aime les âmes. Et je crois qu'on l'a ressenti lors du témoignage de Padre Guglielmo le mois passé. J'ai remarqué que Padre Guglielmo n'a pas fait de grandes envolées. Il a parlé de petites choses toutes simples, d'amitié avec Padre Pio. Par rapport à la prière, Padre Pio disait « Je ne suis qu'un pauvre frère qui prie ». Et j'aime beaucoup ce qu'avait dit, enfin c'est très fort ce qu'avait dit Padre Guglielmo une fois à Paris, où il y avait une famille qui venait demander une grâce à Padre Pio, donc la mère avec le père avec ses enfants, et Padre Pio se tourne vers la croix et dit « Jésus, ne me dis pas non ». Je trouve que c'est beau cette image-là. Padre Pio se définissait comme étant le cyrénéen de tous. Il a dit « Je suis dévoré par l'amour de Dieu et par l'amour des hommes ». Alors, les choses que dit Padre Pio sont importantes, mais Padre Pio, c'est la vérité, Padre Pio. Ce que dit Padre Pio, ce qu'il vit, c'est exactement la même chose. Il met en pratique ce qu'il dit. Et je vais terminer sur une prière à Padre Pio. Bon, je vais la traduire, que je trouve très belle. Hein. « Je ne sais pas prier comme Jésus, je ne sais pas prier avec Jésus comme tu le faisais toi. Je ne sais pas l'aimer comme tu l'aimais toi. Je ne sais pas le prier comme tu le priais toi. Pour cela, je t'en prie, Padre Pio. Parle-toi avec lui. Aime-le. Prie-le, toi, pour moi. En attendant, viens. Donne-moi la main. Et ensemble, cheminons vers Dieu. Mais le long de la route, je t'en prie, Padre Pio. Apprends-moi à parler avec Jésus. Apprends-moi à l'aimer. Apprends-moi à le prier comme tu le faisais toi. Et quand mes lèvres se taisent, et se tait mon cœur, et se tait mon âme, que dedans et au dehors de moi est éteinte toute lumière, Padre Pio, je t'en prie, fais que j'entende ta voix, et que dans ta voix, j'entends la voix de Dieu.
Et à très bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.